Jusqu'à 13h, très bel été, bonnes vacances si vous êtes en vacances dans notre belle région. Coup d'œil sur le sommaire de cette émission. Pour une jeunesse sainte, c'est un livre qui a été écrit par Sophie Fournier, paru aux éditions Salvador. C'est la sélection cette semaine de Nicolas Dargegène pour son chronique Coup de cœur en librairie, en partenariat avec la librairie du Sanctuaire de Lourdes. Nous irons également faire un crochet par le jardin de Radio Présence avec Annick Baléry. Annick qui nous parlera cette semaine d'un fruit, le coin, un fruit qui se mange cuit. Il est tellement dur qu'il se conserve très longtemps. C'est ce qu'elle nous dira au micro de Philippe Subercaz. Et puis nous avons un rendez-vous avec également les auteurs, les spécialistes des auteurs sur les Pyrénées. Anne Lasserre avec le regard des écrivains sur les Pyrénées. La fête du livre chrétien au sanctuaire de Lourdes se poursuit. Elle se déroule actuellement à l'entrée du sanctuaire, pas très loin de la porte Saint-Michel. Et dans un instant, eh bien, on retrouvera un auteur au micro de David Torchala. C'est Yvon Bertorello qui a écrit plus de 40 BD. Il viendra de nous parler de sa dernière qui s'appelle Conta Venessa. Voilà pour les grandes lignes de cette émission qui démarre en musique. Très bel été à vous qui nous écoutez aux quatre coins de notre région Occitanie.
Vivre d'amour, c'est donner sans mesure, sans réclamer de salaire ici-bas. Sans compter, je donne étant bien sûr que lorsqu'on aime, on ne calcule pas. Au cœur divin débordant de tendresse, j'ai tout donné, légèrement je cours. Je n'ai plus rien que ma seule richesse. Je tombe à chaque heure qui passe, me relevant, tu viens à mon secours. À chaque instant, tu me donnes ta grâce. Je vis d'amour.
Vivre d'amour, c'est naviguer sans cesse, semant la paix et la joie dans les cœurs. Pilote aimé, la charité me presse, car je te vois dans les âmes, mes soeurs.
Natacha Saint-Pierre, qui est en duo avec Angoun, avec Vivre d'amour sur les textes de Sainte-Thérèse de Lisieux. Allez, on retourne à Lourdes. Actuellement se déroule la fête du livre chrétien. C'est au sanctuaire de Lourdes. Cette fête se trouve juste à l'entrée du sanctuaire, pas très loin de la porte Saint-Joseph. On retrouve David Torchala avec son invité Yvon Bertorello.
Présence à Saint-Céré, 95-8. Yvan Bertorello, bonjour.
Bonjour David.
Nous sommes ravis de vous accueillir dans le cadre de la fête du livre chrétien au sanctuaire de Lourdes, puisque vous êtes un spécialiste de l'histoire religieuse, vous êtes journaliste, vous êtes réalisateur de documentaires, vous êtes scénariste de bande dessinée. De bande dessinée, il en est question dans le cadre de cette fête du livre, puisque vous signez cette nouveauté qui est le compte Venaissin, comment on prononce ?
C'est le Conta Venaissin.
Venaissin, pardon, vous voyez, ça c'est.
Et en fait, moi-même, j'avais oublié d'où ça venait. Ça vient de Vénasque, qui est une cité très ancienne fondée par les Romains, au nord de Carpentras, et qui est l'origine du christianisme dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Vaucluse, et qu'on appelait pendant des siècles le Conta Venaissin, Vénasque, Venaissin.
Ben voilà, Vénasque, Venaissin.
Il y a un baptistère du 4e siècle, enfin c'est très important pour le christianisme dans cette région de la Provence.
Et donc vous vous êtes intéressé à ce sujet-là, et vous vous êtes plongé encore une fois dans l'histoire, parce que vous êtes auteur de nombreuses revues quand même. Vous avez fait le compte ?
J'ai fait une quarantaine de BD sur des sujets différents chez divers éditeurs, avec des graphismes aussi variés. En général, c'est plutôt des BD historiques avec un graphisme réaliste. Mais là, le Conta Venaissin, ça me tenait à cœur, parce que moi, je suis originaire de cette région, et il n'y avait rien vraiment. Et les papes ont été en Avignon pendant 70 ans, au 14e siècle, après le concile de Vienne. Mais ils en sont restés chefs d'État pendant 7 siècles. Les gens ont oublié que cette région, qui correspond grosso modo au Vaucluse, a été sous la souveraineté papale jusqu'au début du 19e siècle. Et donc je voulais absolument faire découvrir cette histoire incroyable du Conta Venaissin, et aussi ce qui s'y est fait passer 1000 ans avant. C'est l'objet du tome 1, l'affrontement des royaumes. Pourquoi ce titre ? Parce que les historiens disent que c'est central pour la constitution de l'Europe. C'est au sud de l'Europe, mais c'est fondamental quant à la constitution de l'Europe dont nous vivons encore aujourd'hui. C'est situé géographiquement au bord du Rhône, pas loin de l'embouchure du Rhône, et c'est par là que les invasions sont passées depuis l'époque romaine jusqu'aux Sarrasins, au 7e, 8e siècle. Et d'ailleurs, la couverture de ce tome 1 du Conta Venaissin, on y voit bien, on y voit Charles Martel. Et c'est historique, on sait qu'il est venu dans la région, donc on a illustré ce tome 1 par le Mont Ventoux, qui est la montagne centrale du Conta Venaissin.
Évidemment.
Et Charles Martel.
C'est toujours magnifique, en tout cas dans vos bandes dessinées, voilà, vous avez ce talent de choisir en tout cas le bon illustrateur, vraiment, c'est des dessins qui sont magnifiques.
L'illustrateur a du talent, Fabrizio Russo, il a vraiment de talent, et mes co-auteurs aussi, Eric Stoffel et Serge Scotto, avec qui je collabore sur d'autres projets, et je pense qu'on forme une bonne équipe. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que le tome 1, c'est une mise en bouche de cette série. C'est surtout dans le tome 2 qui va parler des papes, l'arrivée des papes en Avignon, l'affrontement aussi des royaumes à cette époque-là, 13e siècle, l'affaire aussi de Philippe le Bel. Oui. Les Templiers, les familles romaines se disputent à Rome, le pape vient pour le concile de Vienne dans la vallée du Rhône, on sait que c'est tout préparé d'avance, il y a la condamnation des Templiers, Rome et le pape apprend qu'à Rome il y a une révolte, et donc il s'installe sur ses terres en Avignon, en descendant sur une énorme barge, le Rhône, et il va y rester, les papes vont y rester 70 ans, jusqu'à ce qu'une sainte Catherine de Sienne vienne secouer le pape, le tutoyer et lui dire, bon écoute, maintenant ça suffit, retourne à Rome. C'est une femme qui a contraint le pape à retourner à Rome.
C'est passionnant à la fois de vous entendre et de vous lire dans cette bande dessinée. Vous êtes vraiment un passionné d'histoire, et puis vous le transmettez bien, vraiment. Vous êtes aussi intéressé à une histoire plus proche de nous, évidemment plus récente, et bien c'est celle de Lourdes. Vous avez déjà signé une bande dessinée intitulée Bernadette de Lourdes, l'enquête, ça c'était en 2020, et vous avez même obtenu le grand prix de la BD chrétienne du festival d'Angoulême, ça c'était en 2021. Et pourtant Lourdes continue de vous plaire, parce que bientôt vous sortirez une nouvelle bande dessinée sur Lourdes.
Alors effectivement, c'est une ville qui m'est très chère, Lourdes. J'y viens depuis l'âge de 6 ans. Ma famille m'y conduisait. J'y suis venu quand j'étais étudiant. Je suis hospitalier depuis de nombreuses années. Et comme vous l'avez fait remarquer, j'ai déjà sorti une première BD grâce à avec le soutien de l'association Le Toit du Cœur et la Baie du Hard. Et cette BD magnifique, avec un graphisme un peu original, un peu inhabituel pour ce genre de projet, mais en tout cas très beau, avec Alban Guillemois qui a beaucoup de talent, et Lourdes de l'enquête, et la BD est toujours disponible d'ailleurs, où on a eu le prix d'Angoulême, comme vous nous l'avez dit, un prix à Angoulême. Et là, il s'agit d'une autre BD, alors qui n'a rien à voir au niveau du style graphique, puisque c'est un style tout à fait réaliste. Ça va sortir aux éditions Plein Vent, avec une excellente distribution grâce à Hachette, et avec un partenariat avec le sanctuaire de Lourdes. J'en profite pour remercier l'évêque, le recteur du sanctuaire et toutes les autorités du sanctuaire de leur confiance, parce qu'on est vraiment touchés et ravis de pouvoir faire cette BD avec eux.
Cette BD s'appellera Lourdes, une histoire millénaire.
Alors on a voulu lui donner une dimension historique aussi antérieure aux apparitions, parce qu'on s'est aperçu que cette ville, eh bien, elle est choisie depuis très longtemps, j'allais pas dire de toute éternité quand même, mais depuis très longtemps il s'y est passé plein de choses. Dans cette région il y a eu plein d'apparitions, pas seulement à Bétaram, à Garaison, mais ailleurs. C'est un lieu très important, et on a l'impression que le ciel a choisi ce lieu pour Bernadette Soubirous, pour que Bernadette Soubirous, c'est cette vision de la très Sainte Vierge Marie. Et quand j'ai eu cette idée de bande dessinée, pour être très honnête, je veux la citer, Isabelle Wachmann de la librairie m'avait suggéré de faire cette BD, une BD plutôt historique et classique, et l'idée est née avec votre soutien, David, et puis l'assentiment des autorités du diocèse et du sanctuaire. On s'est dit qu'il fallait faire un sujet grand public mais sérieux. C'est pour ça qu'on a sollicité Stéphane Bern, avec qui je collabore, j'ai déjà collaboré plusieurs fois pour des projets historiques, et ça l'a enchanté d'être co-auteur de cette BD, et je pense que c'est une BD qui aura du succès, surtout qu'il ne faut pas oublier, il a tourné lui-même un secret d'histoire
oui.
Dans ces lieux.
C'est ça, un grand secret d'histoire qui sera diffusé à la rentrée sur France Télévisions. Oui, vraiment, Stéphane Bern fait l'amitié de soutenir ses projets avec Lourdes. Alors, on suivra évidemment la sortie de cette bande dessinée. C'est en septembre.
Elle sort en septembre, en avant-première à Lourdes, je crois le 21 septembre. Elle sera dans toutes les librairies, Fnac, etc. À partir du 2 octobre, et naturellement à la librairie du sanctuaire de Lourdes. J'encourage les gens qui passent à Lourdes d'attendre leur venue à Lourdes pour l'acheter ici. Évidemment, tous les auteurs seront présents pendant le pèlerinage du Rosaire, début octobre. On fera un événement au Bernardin avec le sanctuaire, avec Stéphane Bern et les auteurs. Donc, c'est un très gros projet pour nous. Et je précise qu'il sort également, évidemment en français, mais en italien et en anglais.
Merci, bon succès pour cette nouvelle bande dessinée. Merci Yvon Bertourello, puis on suit toujours votre actualité littéraire. Et puis pas que, vous avez plein d'actualités en tout cas Yvon. C'est un plaisir de vous recevoir à Lourdes.
Merci David.
Voilà, Yvon Bertourello était au micro de David Torchala, entretien enregistré donc dans le sanctuaire de Lourdes, hein. C'est à l'occasion de la fête du livre chrétien qui se poursuit à l'entrée du sanctuaire de Lourdes. De la librairie du sanctuaire, il en sera question dans quelques minutes puisqu'on retrouvera Nicolas d'Argegène. Il a sélectionné un ouvrage cette semaine qui s'intitule « Pour une jeunesse sainte » de Sophie Fournier. C'est paru aux éditions Salvator. C'est en partenariat avec la librairie du sanctuaire de Lourdes. Pour le moment, direction les Pyrénées. Avec le regard des écrivains sur les Pyrénées, on va se rafraîchir un petit peu, on va prendre un peu d'altitude avec Anne Lasserre et Philippe Subercase.
Radio Présence dans la vallée du Lot. 92.5.
Bonjour Anne Lasserre.
Bonjour Philippe.
Alors nous voyageons à la fois dans notre beau pays, hein, dans les Pyrénées, mais on voyage aussi dans le temps, hein, puisque la semaine dernière nous étions au temps un peu avant, un an avant la Révolution française, en 1788.
Oui, voilà. Philippe.
Et alors que la Révolution était en 1789, si je me souviens bien de mes cours.
Oui, non. C'est moi qui, dans ma tête, ai pensé un siècle, alors que vous aviez bien dit un an.
Alors aujourd'hui, nous allons à Biertin, donc un village de l'Ariège situé près de Massat.
C'est un village que j'ai découvert il y a quelques années, car j'ai été invité à y donner une conférence. Je peux vous assurer que l'été, Bière est animée et que l'on y rencontre des gens passionnés par les Pyrénées et les lieux qu'ils habitent.
Biert est une commune relativement jeune, car jusqu'en 1851, elle faisait partie de la commune de Massat. Je crois que la devise de Biert est « Tous ensemble, nous y arriverons ».
Devise d'autant plus belle, effectivement, qu'il doit y avoir à Biert quelques 300 habitants.
Voilà, et l'union fait la force. Oui. L'auteur Roger Toulouse a mené une carrière de professeur d'espagnol en divers lieux d'Occitanie, mais il n'a jamais oublié ses racines, l'Ariège et le village de sa famille maternelle. Bien sûr, on parle de Biert. Hein.
Oui.
Afin de combattre l'œuvre destructrice du temps à travers des témoignages, il fait revivre ce village et vous avez retenu des pages sur les travaux agricoles. Alors là, je pense que les plus anciens vont absolument apprécier. Fermez les yeux, mettez le son légèrement plus fort et laissez-vous porter. Merci Yann.
Le regard des écrivains sur les Pyrénées, Anne Lasserre.
Roger Toulz est né en 1934. Il revient souvent à Biert, où sa famille maternelle est implantée depuis longtemps. Lui-même se sent profondément enraciné dans ce terroir du Haut-Couseran. Dans un ouvrage intitulé « À Biert, village d'Ariège autrefois », il évoque la vie que l'on y menait au début du siècle dernier. Le texte retenu évoque certains travaux agricoles, le dépiquage, les coupes de bois, la fenaison. Le dépiquage, écrit Roger Toulz, s'effectuait soit au prat bézial, soit sur une des places du village, le plus souvent devant l'église. Le sol de terre battue était tapissé de bouses de vache mêlées de purin que l'on étendait la veille afin d'obtenir une surface protectrice sèche et dure le jour de l'opération. Chaque famille choisissait alors un emplacement pour battre le grain, qui au fléau, manœuvré surtout par les hommes, qui au latarou, instrument rudimentaire très flexible, formé d'une branche de noisetier semblable à celle qu'escaladent les haricots grimpants. Le mouvement des bras suivait le rythme imposé par l'onomatopée « ti, ta, ta » ou par la cantilène « 7 fois 8 ». On attendait que le vent souffle pour vanner à l'aide d'une crible. Les petits récoltants, notamment dans les hameaux, confectionnaient des mini-gerbes qu'ils utilisaient pour couvrir les toits après en avoir extrait le grain en les frappant sur une pierre. Les arbres étaient abattus à la hache. Dans les rares sites plats ou aisément accessibles, on utilisait un passe-partout pour débiter les troncs. En zone de forte déclivité, ceux-ci, après ébranchage, étaient lancés dans les lits abrupts des ruisseaux jusqu'aux lisières abordables par les charrettes. Rude tâche, au cœur de nos bois très en pente, de les dégager en cas de heurte contre des roches, de les remettre dans la bonne direction quand un obstacle imprévu les en déviait et de les manipuler à l'arrivée. Vers 1910, la route de Saint-Girons à Massat n'était guère fréquentée. Seules, 3 ou 4 voitures à cheval l'empruntaient chaque jour. Les manœuvres périlleuses se réalisaient donc aisément entre deux passages. Toutefois, par mesure de prudence, un jeune guetteur se hissait sur quelques points stratégiques pour parer à toute éventualité. Le plus souvent, les troncs entiers, acheminés sur des charrettes, n'étaient débités qu'à Biert. On les sciait tout d'abord à la longueur voulue, avec le passe-partout ou la scie à main, suivant leur diamètre, puis à l'aide d'une masse en bois, on fichait dans leur chair des coins de chair pour en tirer des bûches. Le chêne et le hêtre fournissaient le bois de chauffage le plus apprécié. L'unique mesure de capacité pour le bois était la canot, la canne, équivalent à un peu plus de 3 mètres cubes. 3 mètres de long multiplié par 1 mètre de haut multiplié par 1,10 mètre de profondeur, soit la longueur des bûches pour la dernière dimension. Aujourd'hui encore, le bois est livré à la canne et non au mètre cube ou stère. La fenaison. Les années normales ont procédé à la première coupe les derniers jours de juin, avant la fête de Saint-Pierre, 29 juin, alors que le fauchage du regain durait parfois jusqu'en septembre. Seule la faux, munie d'un manche à poignet, était en usage chez nous. Comme la plupart des faucheurs d'alors, mon grand-père portait à la ceinture le coffin de bois contenant la pierre à aiguiser et au fond une infime réserve d'eau. D'un mouvement régulier en arc de cercle, accompagné par les stridulations des crayons, il formait les andins que les femmes défaisaient derrière lui avec une fourche à deux dents, en bois ou en fer, pour étaler l'herbe au soleil. Celle-ci, retournée deux ou trois fois dans la journée, était en général mise en tas le soir. Si elle n'était pas tout à fait sèche, on la disposait pour la nuit en rudolos, amoncellement plus court mais plus haut que les andins. Quand le fil de la lame s'était émoussé au contact des cailloux ou d'objets divers masqués par la verdure, il devenait impératif de le reconstituer en battant l'instrument. L'aïeul s'asseyait alors et avec un marteau frappait de longues minutes la lame, le plus souvent posée sur une sorte d'enclume miniature pourvue d'un pied haut de quelque 30 cm que l'on plantait dans la terre jusqu'à un cran métallique fixé à mi-course ou à défaut sur une pierre dure. Cette obsédante musique, répercutée à l'infini par les échos de la montagne, animait alors nos vallées où, sur les versants les plus escarpés, les faucheurs s'encordaient prudemment, comme des alpinistes. Les propriétaires de parcelles plates ou faciles d'accès chargeaient directement le foin sec sur les charrettes, toutes peintes en bleu clair et tirées par des vaches. Dans les endroits scabreux ou à l'écart d'un chemin charretier, la tâche s'avérait plus ardue. Il fallait faire des fagots, composés de 5 ou 6 rouleaux, liés avec des cordes retenues par des attaches en bois, pour les monter ou les descendre plus aisément jusqu'au point où stationnait le charton à bras. Il y a tout juste un siècle, les travaux agricoles se pratiquaient sans mécanisation. Cela nous paraît un temps révolu, et pourtant il n'est guère si éloigné du nôtre. Nos grands-parents ou arrière-grands-parents l'ont connu, ont peut-être participé au dépiquage, à la fenaison, comme le rapporte Roger Tools. Le passage retenu est extrait d'un ouvrage intitulé « À Bière, village d'Ariège autrefois », ouvrage publié en 2001 par les éditions Edite, l'association Bière 2001, créée pour commémorer le 150e anniversaire de l'institution en commune du village de Bière, a contribué à la réalisation de cet ouvrage.
Je disais que les anciens devaient être sûrement heureux, hein, même si ça doit leur, pour certains, leur faire repenser des moments qui étaient durs, parce que à l'époque, oui, l'agriculture n'était pas aussi mécanisée qu'aujourd'hui, et c'était dur, oui. Et on oublie souvent à quel point les travaux des champs étaient, on le disait, pénibles. Il n'y a pas si longtemps que cela, tout se faisait à la main. Et les villages, au début du XXe siècle, étaient encore des rues en terre battue.
Oui, comme à Bierte, on vient de le voir. Puisque à Bierte, le goudronnage des places et des rues date seulement de 1960.
Parce que nous, on a toujours l'impression que ça a toujours été goudronné, mais effectivement, non, c'était pas le cas. Alors, il y a bien sûr pas d'éclairage public avant le début du siècle où on installe des réverbères à pétrole. Et la personne qui était chargée d'allumer les réverbères ne le faisait pas les nuits de pleine lune par souci d'économie.
Et oui, on a oublié tout cela.
Oh là là.
Dans les maisons à la même époque, on s'éclaire avec des lampes à pétrole.
Alors, il y a de l'eau courante dans le village, mais que à partir de 1948.
Et les fontaines publiques, là, ça m'a surprise, ne datent que de 1911-1912 aussi.
Ouais, incroyable. L'auteur écrit que le foin sec est chargé sur des charrettes toutes peintes en bleu clair. On peut se demander pourquoi cette couleur.
Oui, alors, le bleu clair était, paraît-il, censé éloigner les mouches et les thons. À moins que la peinture, précise Roger Tools, il le précise en note, n'ait contenu un répulsif.
Ah oui. Voilà, oui. Mais s'il y en a qui connaissent aussi la réponse exacte, on est preneur. Merci beaucoup, Anne Lasserre. À la semaine prochaine.
Merci, Philippe. À la semaine prochaine.
Voilà, et la suite de cette émission dans un instant, c'est avec l'actualité. L'actualité régionale et Carla Ponce de l'école de journalisme de Blagnac. Merci encore à Anne Lasserre et Philippe Subercaz. Et puis juste après, direction le jardin de Radio Présence. On va parler d'un fruit, qui est tellement dur qu'on le mange cuit, c'est le coin. Et il est dur et en plus il peut se conserver longtemps. C'est ce que nous dira Annick Baléry. Direction également la librairie du Sanctuaire de Lourdes avec Nicolas d'Argengène. Pour le moment, à 12h25, une pause musicale.
Le ciel bleu sur nous. Peut bien s'écrouler. Peu m'importe si tu m'aimes, je me fous du monde entier. Tant que l'amour inondera mes mains. J'irai jusqu'au bout du monde, je me ferai teindre en blonde, si tu me le demandes. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune, si tu me le demandes. Je renierai ma patrie, je renierai mes amis, si tu me le demandes. Oh, la vie t'arrache à moi. Si tu veux que tu sois loin de moi, peu m'importe si tu m'aimes, car moi je mourrai aussi. Nous aurons
à Tarbes et Lourdes, 96.
Très belle journée à l'écoute de Présence Midi pour une jeunesse sainte. C'est l'ouvrage qu'a sélectionné Nicolas d'Argengène dans un instant. Cet ouvrage a été écrit par Sophie Fournier et paru aux éditions Salvador. C'est notre coup de cœur en librairie en partenariat avec la librairie du Sanctuaire de Lourdes. Mais pour le moment, sur les pendules de Radio Présence, il est midi et demi et à la mi-journée, on fait un point complet sur l'actualité régionale avec Carla Ponce de l'école de journalisme de Blagnac.
Bonjour à tous. Dans le Tarn, l'Agence régionale de santé signale une augmentation des cas de dengue et de chikungunya liés aux moustiques tigres. Au 6 août, 5 cas de dengue et 2 cas de chikungunya, tous importés, ont été confirmés. Aucun cas autochtone n'a été détecté cette année dans le département. Des opérations de démoustification sont menées autour des zones à risque. La vigilance reste de mise pour éviter toute propagation. À Colomiers, en Haute-Garonne, une cavité a été découverte à 11 mètres de profondeur après le passage d'un tunnelier de la ligne C du métro toulousain. Située sous une propriété privée, elle n'a causé ni fissure ni dégâts. Tisséo a comblé la poche par injection de béton. Des capteurs surveillent en permanence le tracé pour détecter tout mouvement du sol. Le tunnelier concerné poursuit son creusement vers Saint-Martin-du-Touche. Dans les Hautes-Pyrénées, la rivière Léchesse est complètement à sec à Nouillan. La sécheresse et les fortes chaleurs ont fait chuter son débit jusqu'à la faire disparaître. La Fédération de pêche s'inquiète pour la faune aquatique, désormais concentrée dans des rares poches d'eau. Des restrictions d'usage de l'eau ont été mises en place et le débit du canal de la Guespe a légèrement augmenté. Mais la situation reste critique. Les pêcheurs appellent à repenser la gestion de l'eau pour éviter que les milieux aquatiques ne soient les premières victimes en période de pénurie. À Saverdun, en Ariège, plusieurs chantiers d'embellissement ont récemment animé le centre-ville. Le cimetière communal a été désherbé, un chemin piétonné sécurisé relie désormais le centre commercial Saint-Martin de Peyrade au commerce du village. Et sur la place de l'église, la fontaine historique, longtemps en panne, sera bientôt remise en service. Un vent de renouveau souffle sur la ville. Et avec 41,5 degrés enregistrés, Villeneuve-sur-Lot est en vigilance rouge canicule. La ville et le CCAS appellent régulièrement les seniors pour veiller à leur santé et prolongent l'ouverture de la table du CCAS, ouverte aussi aux mamans avec bébé. La résidence du Beurre met ses salles climatisées à disposition des personnes âgées isolées et la piscine de Malbrante ferme à 21h et plusieurs événements sont déplacés ou adaptés. Et enfin, début août, à Millau, un saisonnier d'une trentaine d'années a remporté 500 000 euros en grattant un ticket d'or acheté 5 euros. Le gagnant, habituellement peu adepte de ce jeu, l'a pris sur un coup de tête avant de découvrir la somme en terrasse. Le buraliste, ravi pour lui, va recevoir une pancarte de la Française des Jeux pour signaler la victoire. Une belle publicité pour son kiosque et peut-être, qui sait, un signe que la chance repassera.
Peut-être. Exactement, merci à Carla Ponce de l'école de journalisme de Blagnac, retour de l'info des 13h avec l'actualité nationale et internationale. Dans les prochaines minutes, Annick Baléry va nous rejoindre pour parler du coin, ce fruit qui se mange le plus souvent cuit. Elle sera au micro de Philippe Subercase. Pour le moment, c'est Nicolas d'Argegène avec Coup de cœur en librairie en partenariat avec la librairie du Sanctuaire de Lourdes.
Présence à Castelsarrasin, 93.3.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un petit livre que des amis viennent de m'offrir. Il s'agit de « Pour une jeunesse sainte » de Sophie Fournier, paru aux éditions Salvator en 2023. L'auteur encadrait un groupe de jeunes scouts. Elle était cheftaine de compagnie de guides dans ce formidable mouvement qu'est le scoutisme européen. Et un jour, elle parle de la sainteté à ses guides. Une des jeunes filles présentes lui dit « Mais Sophie, c'est vraiment pas possible de devenir sainte, c'est bien trop difficile. » La remarque blesse et interroge Sophie. Elle a alors l'idée d'écrire cet ouvrage pour répondre aux objections de toutes les personnes qui pourraient penser que la sainteté est inaccessible, alors que nous sommes tous appelés à devenir saints. Et donc, avec ces quelques pages, Sophie Fournier veut nous faire découvrir ce formidable cadeau qu'est la sainteté. Elle l'écrit elle-même dans son introduction. « J'ai écrit ce livre pour répondre à cette guide, si dubitative devant sa capacité à être sainte. D'ailleurs, Dieu donne à tous cette grâce. » Et à tous les autres qui ont parfois doucement souri lorsque je leur parlais d'aller au ciel, d'être saint. À la base, cet ouvrage s'adresse à un public jeune, mais ne mentons pas, il peut être lu à tout âge. À tout moment, nous avons encore besoin de lire que la sainteté est un chemin accessible. La sainteté, comme le dit le catéchisme de l'Église catholique, caractérise en premier lieu la nature de Dieu et par extension l'état de vie de ceux qui, par leur exemple et leur union au Christ, sont des modèles pour les autres. La sainteté, c'est l'union au Christ à laquelle tous les baptisés sont appelés. C'est la charité vécue pleinement, c'est-à-dire l'amour de Dieu par-dessus toute chose et l'amour du prochain. Elle est un caractère essentiel de ceux qui veulent être des témoins de Dieu aujourd'hui. Cependant, dans l'imaginaire collectif, sainteté est synonyme de perfection. Seul l'être parfait peut être saint. Or, Sophie Fournier le rappelle, Dieu ne nous veut pas parfaits. Et il est utile de distinguer sainteté et perfection. Comme le disait Saint Jean 23, la perfection est liée à une réussite personnelle. L'accès à l'excellence ne peut être que le fruit d'un long travail de soi sur soi, mais aussi pour soi. La sainteté, nulle créature ne peut l'acquérir en comptant exclusivement sur ses propres forces. Elle se reçoit, ne résulte pas d'efforts surhumains. Le saint chrétien est un pauvre qui prend acte de ses limites, se dépouille et renonce lui-même pour tout recevoir de celui qui seul est saint. Le saint pape nous donne là une distinction entre sainteté et perfection facile à comprendre. La sainteté ne dépend pas de nous, il nous faut simplement l'accueillir, faire naître en nous la vie de Dieu. Comme l'écrit Sophie Fournier, nous sommes des pauvres, certes, mais des pauvres aimés et sauvés par Dieu. C'est là que se trouve notre force. Nous ne pouvons pas être saints sans Dieu. La grande différence est donc que la perfection est choisie, laborieuse, difficile à atteindre, tandis que la sainteté est donnée par Dieu, par la grâce. « Ma grâce te suffit », comme l'écrit saint Paul aux Corinthiens. Une grâce que nous devons accueillir et dont nous devons nous montrer dignes. D'ailleurs, Dieu connaît nos limites, nous en avons tous. Et c'est souvent par ces limites que Dieu passe pour s'approcher de nous et nous attirer à lui. Mais par contre, nous ne devons surtout pas tomber dans une sorte de tiédeur, de médiocrité. Comme l'a écrit le pape François dans son exhortation « Gaudate et exultate », le Seigneur veut que nous soyons saints, et il n'attend pas de nous que nous nous contentions d'une existence médiocre, édulcorée, sans consistance. Une erreur serait également le quiétisme, c'est-à-dire ne rien faire, puisque Dieu s'occupe de tout. Or, comme l'écrit Sophie Fournier, nous ne serons pas saints sans Dieu, mais Dieu ne nous rendra pas saints si nous ne faisons rien. Nous devons agir comme si tout dépendait de nous et prier comme si tout dépendait de Dieu. Pour nous encourager, l'auteur nous cite un écrit de Marie Noël. La grande poétesse auxerroise écrivait « Le saint, ce n'est pas quelqu'un de parfait, ce n'est pas quelqu'un de valeur, c'est quelqu'un qui ne vaut rien, c'est quelqu'un qui n'est rien. Mais par ce rien, Dieu passe, comme l'eau d'une source par le vide grand ouvert d'un conduit, pour aller donner aux âmes sa grâce à boire. Le saint est un bon conducteur de Dieu. » Marie Noël nous l'indique, c'est en acceptant ma petitesse et ma faiblesse que Dieu va me transformer en force. Pas besoin d'être grand pour conduire Dieu vers les autres. Le fait d'être saint ne veut pas dire que l'on cherche à tout prix à être canonisé. Notre seul but est de nous approcher de Dieu le plus possible. Notre mise sur les autels des églises ne dépend pas de nous et ce n'est pas cela que nous devons rechercher. Dans un second temps, Sophie Fournier va nous donner des exemples de certains jeunes canonisés ou en chemin vers la canonisation et qui peuvent parler aux jeunes. La bienheureuse Chiara Luce Baldano, Saint-Raphaël Anaïs Baron, Thérèse de l'Enfant Jésus, bien sûr, mais aussi le vénérable Faustino Pérez Manglano, notre voisine du Gers, Claire de Castelbajac, et bien sûr le futur saint Carlo Acutis. Tous ces exemples peuvent parler aux jeunes, peuvent leur donner une voie pour avancer vers la sainteté. Ces six exemples ont vécu leur vie chrétienne à fond. Car devenir saint, c'est vivre à fond, vivre chrétiennement à fond. Vivre à fond, mais surtout vivre tout de suite. Comme l'écrit Sophie Fournier, il y a une urgence à devenir saint. Pour Dieu, pour nous, pour le monde. Elle nous donne dans son dernier chapitre sept moyens pour devenir saint, sept pistes que nous pouvons suivre, quel que soit notre âge, quelle que soit notre condition ou notre état de vie. Il faut tout d'abord désirer la sainteté, on ne peut pas devenir saint si on ne le veut pas. On peut penser que désirer la sainteté est une forme d'orgueil, mais il n'en est rien. Bien entendu, nous n'avons pas à nous vanter de chaque bonne action faite, là c'est de l'orgueil. Mais dire que nous voulons devenir saint, eh bien c'est tout à fait possible. Un autre point, c'est qu'il nous faut aimer Dieu et notre prochain. Cela paraît normal. Comme le disait sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, « Ma vocation, c'est l'amour ». Mais aussi, il faut être joyeux. Comme le dit l'adage, « Un saint triste, un triste saint ». La joie chrétienne n'est pas synonyme d'exubération, elle est souvent intérieure, mais elle illumine un visage, elle le transfigure. Il faut aussi prier. Comme dit saint Charles de Foucault, « Quand on aime, on voudrait sans cesse parler à l'être aimé. La prière n'est pas autre chose ». Il faut servir. Servir, c'est aimer en acte, comme l'écrivait Michel Menu, une des figures importantes du scoutisme français. Et puis vivre les sacrements, notamment l'Eucharistie et la confession. Et enfin, se rassembler, car un chrétien isolé est un chrétien en danger, comme le disait le pape François. Ces sept moyens ne sont pas une recette miracle. Ils sont l'expression d'une attitude fondamentale, chercher à faire la volonté de Dieu, s'abandonner à Dieu, écouter et mettre en application la parole de Dieu, aimer l'Église. Et cela, chacun avec nos moyens, nos talents, nous nous mettons au service de Dieu dans le but de devenir des saints. Mais le plus important, c'est de trouver sa propre voie. En partant de ces 7 conseils ou en suivant des voies déjà ouvertes par d'autres saints. Le principal est d'agir à sa manière avec un seul but, s'approcher de Dieu. Sophie Fournier nous le conseille, restez les originaux que Dieu a fait de vous. Voilà un petit livre à lire pendant les vacances et à offrir à tous les jeunes adolescents, mais aussi aux adultes. L'auteur indique dans sa conclusion, ce livre est particulièrement destiné aux jeunes, mais je m'adresse à tout de même à vous, prêtres, parents, aumôniers, animateurs en pastoral, éducateurs. Faites-les devenir saints. Soyez saints pour qu'ils deviennent saints. Votre vie sera le meilleur témoignage, le meilleur exemple que vous pourrez leur donner. Montrez-leur la joie qu'il y a à aimer Dieu, à s'engager dans ce chemin de la foi, de la vie en Dieu. Montrez-leur à quel point Dieu n'est pas ringard ou un vieux pontif du passé, à quel point il est moderne, à quel point il agit aujourd'hui. Nous devons être saints aujourd'hui, pas demain ni la semaine prochaine. Non, c'est aujourd'hui que nous devons décider de devenir saints. Notre sainteté commence aujourd'hui. Choisissons maintenant de devenir saints. Pour Sophie Fournier, nous devons tous rayonner par une vie sainte. Nous devons éclairer le monde et pour cela être saints et scintillants. Des scintillants, S-A-I-N-T-I-2-L-A-N-T-S, un néologisme qu'elle a imaginé, mais qui résume comment nous devons éclairer le monde par notre sainteté. Ce livre à destination des jeunes est donc à mettre entre toutes les mains. À noter également que ce très bon livre a reçu en 2023 le prestigieux prix Saint-Jean-Paul II pour la famille, l'amour et la vie, section jeunesse. Pour une jeunesse sainte de Sophie Fournier, paru aux éditions Salvator en 2023, disponible à la librairie de la Grotte à Lourdes et dans toutes les librairies.
Merci à Nicolas d'Argegène, voilà, pour sa chronique hebdomadaire à coup de cœur en librairie. Allez, à suivre dans les prochaines minutes. L'actualité sera de retour dès 13h avec l'information nationale et internationale. Pour le moment, comme tous les jeudis, direction le jardin, le potager de Radio Présence avec Annick Baléry et Philippe Subercas.
Radio Présence aux portes du Tarn, 97.9.
Bonjour Annick Baléry.
Bonjour Philippe Subercas.
Aujourd'hui, dans cette chronique, Annick Baléry, nous allons parler d'un fruit. Un fruit qui est peut-être, enfin vous avez sûrement donné des astuces, qui est un peu dur des fois, où on en fait de très belles confitures, c'est le coing.
Oui, le coing, qu'on appelait autrefois la pomme d'or. Alors il y a une légende comme ça avec la pomme d'or du jardin des Hespérides, c'est une légende grecque. Et on a souvent pensé que c'était des oranges, mais en fait, non, ce sont des coings. Alors, les coings qui étaient très estimés déjà dans l'Antiquité, c'est un fruit qui est assez particulier parce qu'il ne se mange que cuit, en fait.
Voilà. Et il est dur.
Il est extrêmement dur. Oui. Ce qui lui permet de se conserver pendant plusieurs semaines dans une pièce fraîche. Si on vous en offre, vous avez la possibilité de le conserver. Et alors, en plus... le bénéfice, c'est que ça parfume une pièce de façon absolument extraordinaire.
Ah oui, le fruit. Le
oui, coin. Ça sent vraiment très très bon. Alors le coing se présente comme une poire un peu cabossée, qui est dure et qui est jaune. Elle a une épiderme jaune. Il a une épiderme jaune luisant, mais il est recouvert d'une espèce de duvet cotonneux un peu marron. Qu'on trouve pas forcément quand on les achète. Quelquefois, c'est essuyé parce que c'est vrai que c'est pas très très appétissant. Mmh. Mais ça protège le fruit, je pense, des intempéries. Donc, quand on va le cuisiner, effectivement, on va enlever cette protection à l'aide d'un chiffon un peu rugueux. Alors, le coing, c'est une bombe au niveau vitamine. Il contient de la vitamine C, des oligoéléments, des fibres alimentaires. Des tanins. Alors les tanins, c'est quelque chose qui va rentrer en jeu pour la purification des intestins et la baisse du cholestérol. Rien que ça,
oui.
Et la pectine, c'est ce qui fait prendre les confitures. Hein. C'est quelque chose qu'on rajoute quelquefois sous forme de poudre pour faire prendre des confitures qui en contiennent peu, comme par exemple la cerise.
Là ?
La pectine.
Pectine. Mais la cerise, vous avez
dit ? Non. La pectine, c'est quelque chose qui peut être utilisé en cuisine, ajouté à des confitures pour les faire prendre.
D'accord.
Mais dans le cas du coing, qui en est vraiment rempli, c'est absolument pas nécessaire.
D'accord.
Alors, la pectine, donc, va réguler la glycémie et c'est un détoxifiant. Donc, que du bonheur. Si vous mangez du coing, vous vous faites du bien.
D'accord. Alors, vous disiez que c'est un fruit qu'on mangeait absolument cuit. Alors, est-ce que vous avez quelques idées? Moi, je connaissais bien sûr la gelée de coin en confiture, quoi. Mais qu'est-ce qu'on en fait du coin, du coup, si on n'en fait pas de la confiture?
Alors, le coin, on peut aussi le manger dans des plats salés. C'est un usage qui n'est pas très connu, mais c'est vraiment succulent. Alors, on le trouve dans les tagines et le couscous, mais on peut aussi le cuisiner avec des gibiers ou des viandes à saveur relevée, comme le chevreuil, le sanglier, le canard. Et c'est vraiment très, très bon. Alors, ce que l'on peut faire, c'est soit le couper, le mettre dans la cuisson, mais on peut aussi le faire cuire d'abord à la vapeur et le sous une forme de quartier, épluché et pépiné, et le rajouter dans la sauce du gibier ou du canard, et c'est vraiment excellent.
Est-ce que vous avez des astuces pour le couper, en fait?
Alors, mon arme secrète, c'est le couteau en céramique. Je l'utilise beaucoup, j'ai des petites mains en plus, voilà. Et je l'utilise beaucoup, par exemple, pour lutter contre l'écorce du potiron ou contre la dureté du coin, et franchement, ça marche très, très bien. Alors, le coin a longtemps servi pour faire des confitures. Le mot marmelade, qui est un mot d'origine portugaise, désigne une gelée de coin, en fait.
D'accord.
Voilà. Confiture de coin. Ça avait l'avantage, à un moment où le sucre était rare et il était cher, de pouvoir avoir une confiture qui prenait sans avoir besoin de rajouter beaucoup de sucre.
D'accord.
Alors, une recette que j'aime énormément. C'est la confiture de coin de Nostradamus.
De Nostradamus.
Parce qu'imaginez-vous que Nostradamus, en dehors du fait qu'il faisait des prédictions qui vous glaçaient le sang souvent, était aussi féru de pharmacopée. Et à cette époque-là, on soignait avec les fruits, avec les plantes. Et le coin, en fait, a été réputé pour resserrer les intestins. C'est vrai que ça peut être utilisé en cas de diarrhée, c'est quelque chose qui est assez connu. Et pour le conserver d'une saison à l'autre, on utilisait du sucre, le sucre qui était quelque chose d'extrêmement rare. Voilà.
Parce qu'aujourd'hui, ça nous paraît tellement
anodin. Donc on le trouvait souvent dans des officines, le sucre, oui. Le sucre servait à soigner aussi, il était considéré comme un remède aussi. Donc la confiture de Nostradamus, c'est une façon d'accommoder le coin que j'aime beaucoup parce qu'il rentre des épices dedans. Et c'est vraiment très très bon. Vous allez avoir les petits morceaux de coin qui vont être confits et qui vont nager. Je fais le mouvement en même temps. Côté maîtresse de maternelle. Et qui vont nager dans une gelée rose ponctuée d'épices. C'est vraiment très, très bon.
Alors, cette recette.
C'est des recettes à l'ancienne. Voilà. Donc, c'est des recettes qu'en général, les gens à notre époque détestent parce que vous avez la cuisine qui est remplie de sucre pendant plusieurs jours. Parce qu'en fait, confiture, ça vient de confire. Et confire, c'est faire cuire des fruits dans un sirop qui va être de plus en plus épais. Donc, d'accord, vous avez besoin de plusieurs jours.
D'accord.
Avec la marmite pleine de sucre sur un coin de la gazinière. En général, ça énerve les gens extrêmement soigneux. Dont je ne fais pas partie, vous aurez compris. Voilà. Donc, vous allez prendre 2 kilos de coin, 1 kg de sucre, de la cannelle, alors soit sous forme de bâton, à ce moment-là vous prenez 3 bâtons de cannelle, ou une cuillère à soupe de cannelle en poudre, de la cardamome. Alors cardamome, c'est une épice, bon ça ne va pas être indispensable, on peut faire sans, qu'on va trouver souvent dans la cuisine indienne. Ce sont des petites gousses qui sont grises, et dans lesquels il y a des petites graines dures. Et tout est parfumé, autant l'écorce que la...
Voilà.
Ça ressemblerait à un gros pépin de pamplemousse, en fait. Et ça sent vraiment très, très bon. Ça rentre aussi dans la composition de certains parfums. Et 6 clous de girofle. Donc, on va commencer par essuyer les coins. De façon, alors c'est très satisfaisant parce qu'on les frotte et ils deviennent brillants. C'est très, très beau. On va les peler. Les faire macérer, alors les peler et les couper en petits morceaux.
À quoi ça sert de les frotter si on les pèle?
Oui, mais parce que on va conserver la peau, on va s'en servir.
Ah, vous voyez.
J'aurais dû préciser.
Pourquoi je suis, hein.
Heureusement que vous êtes là. Alors, on va conserver la peau.
Si vous pouvez m'éviter des essuyers pour rien.
Voilà. Oui, mais de toute façon, vous, en coupant les fruits, vous auriez cette espèce de coton collé à la pulpe. Ce serait pas extraordinaire non plus. Donc, vous allez mettre de côté les peaux ainsi que les cœurs qui sont très très durs. Les cœurs et les pépins. Vous allez faire macérer les.
Alors, on les coupe comment?
En quartier, mais alors après ça va dépendre un peu de votre fantaisie, c'est-à-dire si vous aimez une confiture avec des petits morceaux cubiques, ben allez-y. Il y a des gens qui vont préférer des lamelles, voilà, ça va être un petit peu à vous. L'idée quand même étant d'avoir des morceaux qui ne seront pas trop épais pour pouvoir bien se gorger de jus. Donc vous allez laisser macérer vos morceaux de coin dans un saladier avec le sucre et avec les épices. Vous les laissez macérer une nuit.
Sans eau, sans rien.
Sans eau, sans rien. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que l'eau va sortir du coin.
D'accord.
C'est très étonnant parce que ça a la dureté du bois. On a l'impression qu'il n'y a pas de jus dedans. Eh bien non, il y en a quand même. À part, vous allez commencer à faire cuire les peaux, additionnées avec les trognons, avec les pépins. Ainsi que de l'eau. Vous mettez de l'eau à la hauteur de tout ça et vous laissez blubluter. J'aime bien. C'est un verbe que j'ai inventé mais que j'aime beaucoup. Voilà.
Oui, blubutage.
Oui. Blubutage. Voilà. Et vous laissez blubluter et puis ensuite vous éteignez. Et vous allez vous rendre compte que cette eau, elle devient visqueuse en fait parce qu'elle va se charger de pectine. La pectine étant beaucoup contenue dans la peau ainsi que dans les pépins. Et le lendemain, vous allez verser vos coins ainsi que le jus qui a été produit pendant la nuit, ainsi que 50 centilitres d'eau de coin. Alors ça, c'est la recette. Moi, en général, je finis par tout mettre parce que ça va réduire. Et vous donnez un premier bouillon. Alors surtout, pas de brutalité. On n'est pas pressé. On n'est pas pressé, voilà.
Oui, parce que ça fait déjà deux jours qu'on prépare le truc. Donc.
Je vous ai dit que c'était long. Mais après, je vous assure, ça vaut la peine. Donc, on fait blubluter. De nouveau, voilà. Et après, on va mettre la casserole de côté, on va laisser les coins une nuit de nouveau dans la préparation. Ce qui va se passer, c'est que petit à petit, l'eau des coins va sortir, va s'intégrer au sirop, et on va essayer petit à petit de faire réduire le sirop pour avoir une confiture.
D'accord.
Voilà, alors on fait ça plusieurs jours de suite. Hein.
D'accord.
Voilà. Alors, si on veut vraiment faire comme faisaient les anciens, par exemple, les gens qui faisaient fruits confits, je crois que c'était du côté d'Apt en Provence, on peut égoutter les fruits, faire réduire le sirop et mettre les fruits dedans, voilà, de façon à accélérer un petit peu le processus. Alors, normalement, au bout de 3 jours, c'est bon. Vous saurez que c'est prêt quand vous avez les fruits qui sont roses et uniformément translucides. C'est-à-dire qu'ils sont cuits à cœur. Mm-hmm. Donc, vous versez les dés dans les pots et vous couvrez avec le jus qui a épaissi. Vous fermez. Et alors après, je vous raconte pas. En hiver, au cœur de l'hiver, voilà. Puis on a une pensée émue pour Nostradamus. C'est que du bonheur. Alors, si vous voulez planter un cognacier chez vous, c'est un arbre qui est extrêmement facile. Il est un peu de la famille des poiriers. Ce sont deux arbres qui sont compatibles. C'est-à-dire qu'on peut greffer un poirier sur un cognacier. Ça va avoir tendance à nanifier le poirier. Si, par exemple, vous avez des poiriers qui peuvent devenir très, très grands, greffer sur cognacier, ça va un peu les calmer.
Oui.
Voilà. Et l'inverse est vrai, c'est-à-dire qu'on peut greffer tout à fait un cognacier sur un poirier franc, c'est-à-dire un poirier issu de semis. Alors, c'est un arbre qui va aimer le soleil, mais bon, pas le soleil brûlant, bien entendu. C'est pas un amandier. Il est rustique jusqu'à moins 25 degrés, donc on peut l'inviter aussi en montagne, ça peut être intéressant. Il a une très très belle floraison au printemps, alors vraiment une floraison mais adorable, avec des grandes fleurs roses, enfin elles sont, si je me souviens bien, plutôt blanches à l'intérieur et avec l'extérieur rose, c'est vraiment de très très belles fleurs, qui sont suffisamment grandes pour être vues sur l'arbre. Sur un pommier, ça donne pas du tout l'impression. On a l'impression d'avoir une espèce de mousse blanche sur les pommiers. Mais là, vraiment, toutes les fleurs se voient bien tellement qu'elles sont grandes. Alors, un des plus connus, c'est celui qu'on appelle le monstrueux de Vranja, ou le géant de Vranja, qui fait vraiment des coins qui sont vraiment très très gros. C'est même un problème, moi j'ai une amie qui en a un dans son jardin, la première année, le petit arbre là, tout petit, tout maigroulé, maigroulé ça c'est de chez moi, il avait fait trois coins, là il était là, il se demandait s'il allait casser ou s'il allait tenir. Il a tenu, ça vient à fruit assez rapidement. Donc la plantation ça va être d'octobre à mars, bon d'accord. Bien sûr si on a un mois d'octobre chaud, ben on va retarder un petit peu la plantation. Et voilà. Et le bois de cognacier, en plus, est intéressant. Donc, une fois que votre cognacier aura fini sa vie, vous pourrez toujours le transformer en autre chose.
Un bois de chauffage.
Ça, c'est quelque chose que faisait mon grand-père, pour lequel j'ai beaucoup de reconnaissance. C'est-à-dire que les arbres fruitiers, là où on habitait à côté de Nîmes, mettaient beaucoup de temps à pousser. Et quand un arbre mourait, il faisait appel à un ébéniste, il faisait fabriquer des pieds de lampe avec ouais. L'arbre qui était mort. Donc on a tous chez nous des grands pieds de lampe un peu modernes, un peu années 70, qui sont fabriqués avec le bois des fruitiers qui poussaient chez papy.
Voilà pour cette chronique consacrée donc au coin. Avec cette belle recette qui vous vient de Nostradamus.
Voilà, que vous pourrez retrouver sur le net avec des variantes à vous de voir, celles que oui. Vous préférez.
Parce qu'il concerne aussi les épices qu'on voilà. Met. Voilà.
Et puis peut-être qu'il y en a qui sont un peu moins longues que celles que je vous ai proposées, c'est voilà, à vous de voir.
Là, c'est la recette de Nostradamus.
Là, franchement.
À l'époque, on prenait le temps et c'était que du bonheur, sûrement.
Certainement.
Merci beaucoup, Annick Valérie. On se donne rendez-vous la semaine prochaine.
Avec plaisir. Au revoir.
Radio Présence à Toulouse, 97.9.
Georgia, the whole day through,
the whole day.
Just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia on my mind.
I said, Georgia, Georgia. A song of you, comes as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly, still in the peaceful dreams I see, the road leads back to you. I said, Georgia, oh Georgia, no peace I find. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia on my mind.
Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly. Still in peaceful dreams I see, the road leads back to you. Oh, oh, oh Georgia, Georgia, no peace, no peace I find. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia.
say just an old sweet song keeps Georgia on my
présence à Argelès-Gazost 91.9
Radio Vatican.
Le journal.
Le journal.
Le président ukrainien Zelensky multiplie les rencontres diplomatiques avec ses alliés à la veille de la rencontre entre